partout en France. Ils sont bien partout, je veux pas d'emmerde.
C'est bien d'être neutre aussi. À tout à l'heure sur RTL.
Tout à l'heure, à 14h sur RTL, Joël Dicker est l'invité du Bon Dimanche Show, présenté par Bruno Guillon.
RTL. RTL, il est 13h. Le rappel de l'actualité, Pierre Collat. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous. Un nouveau parquet national contre la criminalité organisée. Annonce d'Éric Dupond-Moretti ce matin dans les colonnes de la Tribune dimanche. Le ministre de la Justice souhaite mieux coordonner l'action de la justice et la rendre plus efficace dans sa lutte contre le crime organisé. Ce nouveau parquet, synonyme de nouvel acronyme, ce sera le PNACO, est accompagné d'un projet de création d'un nouveau statut de repenti. Un complice de trafiquant pourra ainsi collaborer avec la justice en échange d'un allègement de peine et d'une protection, par exemple sous la forme d'un changement d'identité pour lui et sa famille. Un deuxième journaliste russe arrêté en Russie ce week-end, le premier a été interpellé hier. On leur reproche d'avoir participé au tournage de vidéos pour l'équipe de Navalny, l'opposant mort le 16 février dernier, alors qu'on a appris ce week-end que Vladimir Poutine ne serait pas forcément responsable directement de la mort d'Alexei Navalny, selon une enquête publiée par le Wall Street Journal, qui relève notamment que la mort de l'opposant a occulté la réélection de Vladimir Poutine. Les sports avec de la Ligue 1 aujourd'hui, suite de la 31e journée. Rennes-Brest à 17h, un derby important dans la course à l'Europe. Brest qui a perdu sa deuxième place le week-end dernier. Malgré ce contexte et la baisse de régime, l'entraîneur Éric Roy se veut serein et optimiste au moment d'aborder les quatre dernières journées.
J'ai pas l'impression qu'il y ait réellement une chape de plomb qui est tombée sur le Stade Brestois depuis quelques matchs. Bon, on a juste perdu contre des équipes qui étaient de qualité. Je crois que les joueurs ont envie jusqu'à la fin de la saison, et c'est que sur ces quatre derniers matchs, de faire du mieux possible, de prendre le plus de points, de valoriser tout ce qu'on a fait avant. Ce serait dommage de baisser les armes maintenant. Donc je pense que les joueurs sont dans un bon état d'esprit, et c'est vrai que ça n'empêche pas qu'on va avoir un match compliqué à Rennes et qu'on connaît l'adversité. Ça va pas être simple.
Éric Roy, entraîneur de Brest, au micro RTL de Philippe Audouin. Le reste de cette journée de Ligue 1, c'est Lyon-Monaco à 19h, avec un enjeu particulier, puisque si Monaco ne gagne pas, le PSG est champion de France dès ce soir. L'affiche de la soirée, ce sera Marseille-Lens, coup d'envoi 21h. Ligue des champions féminines au programme également. Les Parisiennes affrontent Lyon en demi-finale, c'est à 16h. L'actualité foot ce soir sur RTL, c'est entre 20h et 23h, RTL Foot autour d'Éric Silvestro. Et avant ça, à 19h15, Isabelle Langer vous attend pour On refait le sport, où elle reviendra notamment sur la mort de Ayrton Senna. Notez également le Grand Prix d'Espagne en moto, départ 14h. Votre météo pour ce dimanche, un temps très orageux du Languedoc à la région lyonnaise et à l'Alsace. Ce sera plus lumineux en Corse et dans les Alpes-Maritimes. Ciel changeant au nord et à l'ouest avec des nuages et des averses. Mais aussi un peu de soleil, on y croit. Les températures, on attend 13 degrés à Lyon, 15 à Colmar, 16 à Nantes, 18 à Périgueux, 19 à Montauban. Les courses, c'est à Longchamp aujourd'hui. Voici les préférés de Dominique Cordier. Le 9, le 5, le 12, le 11, le 4, le 8, le 2. L'outsider de RTL, c'est le 11. Tumblr, départ 15h15. 13h03 sur RTL. Tout de suite, Focus Dimanche avec Mohamed Bouafsi.
RTL. 13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL,
avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end. Pendant une heure, on va revenir sur l'actualité de votre semaine avec les personnalités qui l'ont marqué. Cette affaire vous a scandalisé. La semaine dernière, la cour d'appel de Metz relaxait un policier accusé de violence intrafamiliale, notamment sur ses enfants. Pour la première fois, Véronique, l'ex-compagne de ce policier, s'exprime à la radio dans Focus Dimanche. Vous allez découvrir son témoignage bouleversant sur RTL. Événement dans Focus Dimanche. David Hallyday prépare un nouvel album, une nouvelle version de 100%, la chanson mythique avec son père, Johnny Hallyday, est sortie mercredi. David Hallyday est mon invité. Véronique Béchu est une lanceuse d'alerte. Elle est aussi la commandante de police à l'office mineur. Elle dresse le tableau d'un phénomène glaçant et sous-estimé, celui d'Internet, où rôdent des milliers de pédocriminels. Rachel Keke avait marqué les esprits en entrant à l'Assemblée nationale en juin 2022. Après une grève mythique de 22 mois à l'hôtel Ibis des Batignolles, elle publie son autobiographie. Qu'est-ce qui l'a le plus marqué dans ses nouvelles missions de députée insoumise? Elle répondra à toutes mes questions.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Cette information a créé un malaise, de la stupeur, de l'effroi chez tous les Français. Celle d'un policier relaxé par la cour d'appel de Metz après avoir été accusé d'avoir mené des violences intrafamiliales sur sa femme et ses enfants. Cet homme avait été condamné en première instance. La cour d'appel a estimé que ce père avait bénéficié d'un droit de correction inexistant pourtant dans le droit français. L'ex-femme d'Yves Millat, ce policier, s'exprime pour la première fois à la radio. Elle a choisi RTL pour s'exprimer. Bonjour Véronique.
Bonjour Monsieur Bouafsi.
Véronique, merci d'avoir accepté mon invitation. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque la cour d'appel de Metz a relaxé votre ex-conjoint en parlant d'un droit de correction?
La première réaction que j'ai eue, c'était, je me demandais si je comprenais bien ce qui se passait en fait. J'étais pas sûre de bien comprendre le sens des mots de ce qui se passait. Et puis je me suis retournée vers mon avocat qui m'a bien expliqué les choses. Et là, ça a été le choc. J'étais abasourdie, j'étais effondrée d'autant plus que on niait pas la véracité des propos des enfants. Ce qu'ils disaient, c'était vrai, c'était juste, mais ce qu'il venait de se passer là, c'était on avait le droit de frapper, de taper ses enfants, de les étrangler, de leur tirer les cheveux. C'était une correction légitime, en fait. Non, c'était un vrai effondrement.
La justice a confirmé la véracité des propos de vos enfants. Vous viviez quoi avec votre ex-conjoint Yves Millat?
C'est assez complexe, en fait. Par certains abords, il pouvait se montrer merveilleux, il faisait des cadeaux, il se montrait généreux. Et à d'autres aspects, il pouvait rentrer pour des bricoles, pour des futilités, dans des colères absolument monstrueuses. Parce que un jour, j'avais accroché le linge d'une certaine façon, alors ça ne lui convenait pas, il hurlait. Et puis le lendemain, j'accrochais de la façon dont il souhaitait. Et il hurlait à nouveau parce que la première fois, c'était la bonne. Pour une éponge mal essorée. Donc c'était déjà, c'était ça, c'était des colères très vives. C'était des humiliations dans le sens où il me disait que j'étais, enfin, Dana, on n'en fait pas un cheval de course, que j'étais bonne à rien, voilà. Et c'était.
Vous étiez sa chose.
On n'existe plus. J'étais sa chose. Je vivais pour lui. Je faisais ce qu'il me disait de faire parce que je voulais pas qu'il rentre dans des colères monstrueuses. Pour vous dire, je n'arrivais plus à penser par moi-même. S'il mettait une bouteille d'eau sur la table, si elle était rouge et qu'il disait à tout le monde qu'elle était rouge alors qu'elle était bleue, j'allais dans son sens. Oui, effectivement, cette bouteille d'eau, elle est rouge. Voilà. On n'arrive plus à penser par soi-même. Et puis ensuite vient le temps où les violences psychologiques ne lui suffisent plus. On arrive à un moment où je suis assise à côté de lui et qu'il ne supporte plus ma présence et qu'il vient me prendre par les cheveux, me tirer par les cheveux pour que j'aille dans une autre pièce. On en est là, on en est où il me fait tomber par terre et puis qu'il met ses mains autour de mon cou en me disant, en serrant très fort, en me disant tu vois encore quelques secondes et tu tombes inconsciente. Voilà, alors ces propos-là, pour le juge,
il y a une plainte aussi pour viol, une information judiciaire qui a été ouverte.
Oui.
Puisque le seul moment où vous aviez l'impression d'être une femme normale, vous me l'avez dit hors antenne au téléphone, c'était sur l'aspect, excusez-moi de ces termes, Véronique, je sais que c'est douloureux à entendre, mais sur l'aspect sexuel.
Oui, c'était en fait le seul moyen pour lui déjà de l'apaiser quand il avait des colères folles. C'était sa façon de le refaire redescendre, en fait.
Qu'est-ce que vos deux enfants, et plus particulièrement Loïc, le grand, vivaient?
Tout le temps de la vie conjugale qu'on a eue, Loïc était le souffre-douleur quelque part de Yves. C'était pour une chambre mal rangée, pour la moindre chose qu'il faisait pas bien, son père se mettait à lui hurler dessus, à lui mettre des fessées monstrueuses, à lui tirer les cheveux. Alors, c'était pas tous les jours, mais c'était très très fréquent. Et j'ai envie de dire, le point de tension, c'était quand il faisait ses devoirs. Alors là, c'était terrible. Yves le prenait par les cheveux, en lui secouant la tête. Et mon enfant était paralysé par la peur. Il n'arrivait plus à réfléchir, mais ses colères ne s'estompaient pas. C'était, là, je parle beaucoup de violence physique, mais pareil, avant les violences physiques, il y a ces violences psychologiques qui sont destructrices parce que
mais c'était des vraies violences physiques, c'est-à-dire que on parle de plusieurs étranglements, c'est notamment la conseillère à l'école, la conseillère sociale qui a vu les étranglements, et votre fils faisait ses devoirs avec l'arme de service de votre ex-conjoint sur le bureau.
Ça s'est passé après la séparation, en fait. Moi, je n'étais même pas au courant. C'est l'assistante sociale qui me l'a appris. Donc, Loïc, quand il s'est confié à l'école, suite à une banale histoire de prêt d'argent, il rendait de l'argent donc à un copain auprès de qui il avait emprunté pour prendre le bus. Et la CPE avait décidé d'appeler son père pour voir si c'était bien une histoire de prêt, pas une histoire de raquette ou quelque chose comme ça. Et là, mon fils s'est effondré. Il lui a raconté que effectivement, il subissait des étranglements, qu'il avait reçu un coup de poing dans le ventre, que son père posait son arme sur la table pour le motiver à faire ses devoirs. Ça a été mon choc. Je m'attendais pas du tout à cette chose-là, et mon fils n'avait pas osé me le dire. Donc ça, il s'est confié à l'assistante sociale.
Plusieurs fois, il lui tirait les cheveux, et l'arme de service était pointée sur votre fils. Pour les devoirs.
Pointé sur mon fils, je ne l'ai pas vu. Moi, je sais que mon fils, il m'a dit, il l'a mis sur la table. Il l'a mis sur la table. Il était sur la table. Je peux pas dire autre chose que le fait qu'il motivait mon fils avec cette arme-là.
C'est-à-dire que cet enfant qui a 12 ans, il vit dans quel climat?
Alors, une semaine sur deux, il vit chez son père. Une semaine sur deux, le dimanche soir, il me dit « Maman, je veux pas y retourner. » Il est stressé, il va pas bien quand il est chez son père et il se relâche quand il est chez moi. Il est, comme il le dit, il l'a dit aux gendarmes, il est terrifié quand il est chez son père. Mais ça encore, c'est quelque chose qui se vit au sein du foyer, devant les autres, devant les amis, devant les copains. Son père faisait l'homme qui s'occupait bien de ses enfants, et les enfants devaient être, devaient se tenir à carreau. C'est, enfin, l'image qu'on renvoie à l'extérieur et l'image réelle de les faits réels qui se passent à l'intérieur du foyer, c'est complètement différent.
Votre fils a tenté de mettre fin à sa vie devant vous.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il était en pleurs et puis il allait pas bien et je comprenais pas trop. C'était très compliqué pour moi et je le vois prendre un couteau et partir dans sa chambre, ouvrir la fenêtre et Louis, qu'est-ce que tu fais? Il voulait sortir, je l'ai retenu. Il voulait se balancer par la fenêtre et je l'ai retenu. Et puis on en a reparlé après. Je dis, pourquoi t'as pris le couteau? Pourquoi? Il me dit, parce que je voulais être sûre de ne pas m'en sortir. Je voulais être sûre que ça me transperce bien le cœur.
À ce moment-là, vous ressentez quoi, Véronique?
Oh, du désespoir, de la culpabilité, de la honte. Je sais que mon fils, il va pas bien. C'est de ma faute parce que j'ai pas su le protéger, j'ai pas réussi. J'avais fait une demande en 2019 pour le récupérer, et puis un ami était intervenu et Yves s'était calmé. Mon fils m'avait dit « Non, maman, on annule la démarche, papa, il est redevenu gentil ». J'avais laissé faire, et puis après c'était... J'ai pas su réagir.
Vous n'êtes absolument en rien responsable. La justice a confirmé les violences que vous avez subies. La justice, des psychologues ont confirmé la véracité des propos de vos deux enfants, et plus particulièrement de Loïc. Comment vont vos deux enfants désormais, Loïc et Camille? Comment ils se relèvent après ces violences? Qu'est-ce que vous attendez désormais de la justice? Je vous pose toutes ces questions, Véronique, après votre témoignage bouleversant. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas. On revient dans quelques secondes sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Le jour où son mari Aymeric est victime d'un grave accident de voiture, Alice voit sa vie s'écrouler. Face à l'incertitude du destin,
Elle va devoir s'adapter aux épreuves pour faire renaître l'espoir. Prendre la vie comme elle vient, un roman qui nous parle de la vraie vie. Cette vie remplie d'obstacles, mais surtout d'amour et de courage. Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte est disponible aux éditions Pocket.
RTL.
Attention, moi je ne dis pas qu'il faut choisir absolument Rénoval.
Bien sûr, monsieur Génial.
Non, je dis juste qu'il y a des personnes dont je fais partie qui préfèrent faire confiance à des gens compétents, à l'écoute, qui feront un travail irréprochable avec des matériaux de qualité. C'est tout ce que je dis.
En ce moment, chez Rénoval, la TVA est offerte. Conditions sur Rénoval.com. Ma pergola, ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Cette affaire vous a choqué, cette affaire vous a scandalisé. La semaine dernière, la cour d'appel de Metz relaxait un policier accusé de violence intrafamiliale, notamment sur ses enfants. Vous venez d'entendre depuis quelques secondes le témoignage bouleversant de Véronique, son ex-compagne. Elle s'exprime pour la première fois à la radio. Véronique, je le disais, il n'y a toujours policier, est un ancien major de la police aux frontières. Il a été plus ou moins exfiltré par un ami à lui dans les services de la police. Est-ce que vous vous sentez toujours en danger? Je crois que vous avez un téléphone, notamment un téléphone grand danger.
Oui, normalement on n'a pas le droit de communiquer cette information-là, mais le procureur l'avait dit au tribunal, donc mon ex-mari est au courant. Oui, je suis pas rassurée parce que je sais qu'il peut se venger, je sais que ça peut prendre longtemps avant qu'il se venge. Une fois il est rentré à la maison en disant, tu vois Véronique, ça, j'ai eu ma vengeance, c'était à propos d'un ancien collègue, ça m'a pris 9 ans mais je l'ai eu. Donc je sais à quel point il peut être...
Il habite à une rue de chez vous?
Il habite à une rue de chez moi et puis il m'a menacé aussi de me pousser au suicide, de me tuer ou de le faire et qu'il avait des relations. Donc voilà, ça c'est bien emprunt. Je sais que j'ai le sentiment que je peux me retrouver dans un fossé un jour ou l'autre et que ça pourrait passer pour un accident alors que ce ne serait pas. Non, je suis pas sereine du tout.
La justice a reconnu un droit de correction qui n'existe pas dans la loi française depuis 2019. C'est dans la loi, c'est ce qu'on appelle une loi positive. On n'a plus le droit de lever la main sur ses enfants, même pour une fessée. Est-ce que vous en voulez à la justice française, Véronique?
Oui, alors j'en veux, je suis surtout stupéfaite, je comprends pas parce que ça va à l'encontre de tout ce qui est fait ces dernières années pour la protection des enfants. Donc en fait, on légitime ces violences dans la mesure où en fait les enfants, on les a pas humiliés à les faire manger au sol ou à les cravacher.
Loïc il l'a dit à votre mère. Ça veut dire que la justice permet qu'on puisse taper ses enfants.
Oui, c'est ça. Il n'arrête pas de le dire. Il n'a pas arrêté de le dire. Et on en a reparlé après. Je lui dis, oui, c'est exactement ce que ça veut dire. Et c'est grave.
Vous êtes pourvu en cassation?
Mais c'est ça. Ça part en cassation.
J'ai parlé avec une source très haut placée au ministère de la Justice qui m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça dans toute sa carrière et que sans doute la Cour de cassation allait casser cette décision avant de la déplacer à une autre cour d'appel. Votre fils, désormais, il s'est levé contre vous, Loïc. Il s'est levé, il s'est même mis face à vous. Il est victime de violences psychologiques et vous avez peur aujourd'hui qu'il les reproduise, puisque vous avez des échanges tendus.
On a eu des échanges très très tendus. On a eu une période où mon fils se mettait devant moi, levait la main et disait « qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu vas me taper ?» Et heureusement, il a été suivi par des éducatrices. Il s'est calmé par rapport à ça. Mais ça a été ma grande crainte et c'est sa crainte aussi à lui plus tard de reproduire ça.
Je vous trouve très, très, très courageuse, Véronique. On se parle beaucoup, on s'est beaucoup parlé ces derniers jours au téléphone. Vous savez que vous avez tout mon soutien et tout le soutien des auditeurs et des auditrices de Focus Dimanche. Je veux aussi rappeler que le tribunal correctionnel de Thionville avait reconnu les violences que vous avez subies, les violences que vos enfants ont subies avant cette décision de la cour d'appel. Ça va partir en cour de cassation, qu'elle va sans doute casser cette décision avant que ça n'aille à une autre cour d'appel, puisque votre ex-mari avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis. C'est important de le rappeler parce que les faits, rien que les faits. Merci à vous. Merci Véronique.
Je voudrais rajouter quelque chose. Sur moi, ils n'ont pas vraiment reconnu. Ils ont dit que c'était parole contre parole. Ils ont reconnu la véracité des propos des enfants, mais sur moi, non. Voilà, c'était juste pour être précise.
Merci à vous Véronique. Merci d'avoir témoigné sur RTL. Merci d'avoir partagé votre voix, tous les auditeurs et les auditrices de Focus Dimanche. Merci à vous vraiment de votre confiance aussi. Je sais que ce n'est pas facile, mais merci à vous. Ce n'est pas facile de passer à un autre sujet, mais il faut le faire. On est dans Focus Dimanche, on évoque toutes les actualités malheureuses, mais celles aussi qui nous donnent de l'espoir, et c'est un événement dans Focus Dimanche. David Hallyday prépare un nouvel album, une nouvelle version de 100% la chanson mythique avec son père Johnny Hallyday, est sorti mercredi. Sa parole est rare. David Hallyday est mon invité dans un instant sur RTL. Ne bougez pas.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Le Bon Dimanche Show.
Bonjour, je suis Bruno Guillon et tout à l'heure dans Le Bon Dimanche Show, je reçois l'auteur à succès Joël Dicker et comme tout bon Suisse, il a su rester neutre.
Les autres écrivains, ils sont mieux en Suisse ou en France ?
Ils sont bien partout, je veux pas d'emmerde, Bruno Guillon.
C'est bien d'être neutre aussi. À tout à l'heure sur RTL.
Tout à l'heure, à 14h sur RTL, Joël Dicker est l'invité du Bon Dimanche Show présenté par Bruno Guillon.
Yeah, yeah. Oh, merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4 euros, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4 euros, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule Glou Glou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Burger King.
Quand vous avez un brique glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous l'avez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Ce soir, dès 21h, sur M6, services publics, santé, taxes, les régions sont-elles sacrifiées ? Dans Capital. Sur W9, place à l'action au cœur de la prison d'Alcatraz, dans Rock, avec Nicolas Cage et Sean Connery. Sur Sister, laissez-vous emporter par le récit touchant de l'enfance de Marcel Pagnol, dans La gloire de mon père. Bonne soirée sur les chaînes du groupe M6.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
C'est un événement dans Focus Dimanche. David Hallyday prépare un nouvel album, une nouvelle version de 100%. Ce tube mythique avec son père Johnny Hallyday est sorti mercredi. Sa parole est rare, mais David Hallyday est mon invité. Bonjour David.
Comment ça va ?
Ben ça va super, en pleine forme, surtout quand je vous vois. Parce que je me dis qu'à chaque fois que je vous vois, j'ai envie d'écouter ça.
J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenu grand.
100%, ce tube mythique, à quel âge désormais, David ?
25 ans, je crois.
25 ans.
25 ans.
Vous me disiez il y a quelques secondes, j'ai pas vu le temps passer.
Bah, ouais, c'est clair, la vie passe à vitesse grand V, surtout, on en parlait, quand on a des enfants, surtout, ils sont des témoins du temps, en fait. Donc, ils passent de 1m20 à 1m95, c'est en 2 minutes, t'as l'impression. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Donc, ouais, c'est fou, ouais.
C'est important de le dire pour nos auditrices et nos auditeurs qui adorent la famille Hallyday, qui adorent Johnny Hallyday, qui adorent David Hallyday. C'est une version totalement inédite.
Oui, en fait, c'est pas un remix. Hein. J'ai tout refait en fait. L'idée, c'était de remettre un petit peu au goût du jour d'abord mes prods à moi, mes titres. Et puis je trouvais que c'était une bonne idée aussi d'avoir ma vision sur son œuvre, on va dire aujourd'hui. Tout ce qu'a fait mon père dans les gros titres de scène et de stade depuis les années 70, il y a toujours un. C'était souvent symphonique. Il y avait toujours des cordes, un orchestre symphonique impliqué dans pratiquement tout ce qu'il a fait, presque tout. Et donc ça, j'ai voulu déjà enlever ça et de proposer quelque chose de plus sur certains titres un peu plus dynamique, plus scénique, plus un peu plus fort, peut-être plus rock.
Ça vous dit de donner du bonheur à nos auditrices, à nos auditeurs qui vous adorent. 25 secondes de bonheur, ça vous dit ?
25 secondes de bonheur ?
Ouais, regardez, écoutez.
Ah ben moi, je, bien sûr, évidemment. Si.
Au-delà de nos différences.
J'avais toujours la même émotion, David, en écoutant vos deux voix ensemble.
Oui, c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'on l'a fait quand même pas mal de fois en live. Je l'ai chanté souvent avec lui en live, sur quelques émissions de télé et tout. Donc à chaque fois, je me dis, bon, ça on l'a fait. Mais c'est vrai que du fait qu'il ne soit plus parmi nous, ça, on va dire ça redouble l'effet de y a un bagage, on va dire, émotionnel qui est énorme, c'est sûr. Et puis c'est vrai que ce titre-là, je l'avais fait moi d'abord, ce titre sans que ce soit un duo, et j'étais content de la version. Mais donc j'avais enregistré ce titre moi, et à partir du moment où il est venu dans le titre, ma voix n'allait plus en termes de c'était pas l'émotion que je voulais, parce que je l'avais chanté tout seul en fait. Donc je me suis dit non, je vais vraiment la rechanter dans les conditions du direct, comme s'il était là, et c'est de l'avoir dans les casques, et puis de le réinterpréter avec lui vraiment en live, c'était un truc de fou quoi.
Ouais. Et dans ce titre, David, il y a une phrase qui prend une autre saveur aujourd'hui. Vous êtes papa et ouais. Vous n'avez plus votre père. Il y a une phrase qui et touchante, j'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures. Mmh. Aujourd'hui, vous la regardez différemment, cette phrase ?
Ouais, bien sûr. Et évidemment, avec l'âge et puis la vie, le positionnement de père à mon tour et avec des enfants qui sont grands maintenant. Il y en a un, c'est un jeune adulte, et puis mes deux filles sont adultes aujourd'hui. Donc, c'est sûr que on s'aperçoit en fait qu'on a loupé des choses. Quand on était plus jeune avec ses propres parents, que ce soit ouais. Père, ta mère ou d'autres membres de la famille qu'on a aimé, et que on comprenait pas tout en fait. Je la prends moins à la légère, c'est sûr.
J'ai préparé l'interview, j'ai passé quelques coups de fil, notamment avec certains qui connaissent très bien la famille Hallyday. Il y a quelqu'un qui m'a lâché cette très belle phrase. On ne sait pas ce que David a fait pour lui personnellement, et parfois David a presque joué le rôle du père, et Johnny s'est presque transformé parfois en fils dans les discussions. Il le rassurait, il le portait, il le challengeait.
Mais en fait, je pense que toutes les générations ont leur chose à apporter, en fait. Et je pense que comme on n'est pas de la même génération, je pense que ma génération à moi, on était vraiment entre deux périodes, c'est-à-dire la culture pop, le début de l'internet, le début de on peut se mélanger avec la génération de nos parents avant. On peut très bien se mélanger. Moi, je comprends très bien d'où viennent mes enfants, par exemple.
Mais il avait vraiment besoin d'être rassuré. Votre père,
moi, j'ai besoin d'être rassuré. Je pense qu'on a tous besoin d'être rassuré à un moment donné. C'est juste la façon dont on traite le problème qui peut apaiser. Je retrouve la même chose avec mes enfants, qui eux sont d'une autre génération aussi, la génération d'aujourd'hui, que je comprends plus que celle de mes parents quelque part. En fait, c'est un espèce d'échange et de continuation et de transmission en fait de choses. Donc oui, forcément, j'avais une façon un petit peu différente de parler des choses qui lui posaient des problèmes. Et
c'était quoi, avant les albums, avant les tournées, avant les concerts?
Non, mais c'est des choses de la vie comme ça, des choses au quotidien. Oui, ouais. Enfin, c'est, y a pas une chose en particulier, mais tu sais comment ça se passe.
Ouais. Requiem pour un fou, ça c'est une chanson qui a marqué tout le monde. Ça va être un nouvel album avec les plus grands hits de votre père. On a tous envie d'écouter Laura.
Ouais, alors ce titre-là, j'ai beaucoup gambergé là-dessus, sur celui-là, parce que je voulais pas, encore une fois, faire la même chose. Donc je l'ai vraiment, on va dire, popisé. J'ai fait, c'est vraiment du coup celui-là un 2.0 quoi. J'ai gardé la même rythmique, par contre, j'ai une rythmique un peu plus soutenue, plus moderne, on va dire. Et puis je l'ai vraiment changé ce titre, mais il fait partie pour moi des titres les plus réussis de du nouvel album là.
Elle l'a entendu, votre sœur ? Elle l'écoute ?
Ouais. Ouais, c'est
la vous avez un énorme sourire.
Bah oui, forcément.
Mais franchement, il est génial votre sourire.
Bah non, mais c'est bon. Bah écoute, non, elle l'a entendu évidemment. C'était la première qui l'a entendu ce titre.
Elle en a pensé quoi ?
Bah je sais pas, je vais l'appeler, attends.
Ah. Non, on pourrait le faire en
non, elle est en train de tourner, mais non, elle a beaucoup aimé, mais c'est pas à moi de le dire, c'est à elle.
Vous avez fait la une de tous les médias du monde depuis votre naissance, David, puis le décès de votre père. C'est un deuil encore aujourd'hui pour des millions de fans dans le monde, et plus particulièrement en France. Vous aujourd'hui, vous reprenez cet album avec des nouveaux titres. J'ai l'impression que souvent, on vous pose pas la question. Pour en arriver à faire un nouvel album, il vous manque comment, votre père ?
C'est une question assez évidente. Ouais, évidemment. Et c'est une façon de revivre un petit peu ces moments. Tu sais, on a vécu pendant cet enregistrement, là. Moi, j'habitais encore aux États-Unis et pendant l'enregistrement de 100%, on a passé 6 mois ensemble. C'était la première fois depuis très très longtemps. Même, je crois, l'unique fois, on avait passé autant de temps ensemble. Évidemment, on a bossé sur un album, mais il y a eu beaucoup de moments d'intimité, forcément. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable. Cet album, évidemment, c'est formidable qu'il ait aussi bien marché et le succès commercial de cet album. Et j'en suis très fier. Mais pour moi, il symbolise vraiment tous les moments qu'on a passés tous les deux, quoi. Donc forcément, c'est des choses qui me manquent et que j'essaie de raviver, de réanimer, on va dire, dans ce projet-là, parce que je pense que un héritage artistique, c'est quelque chose qui se travaille et puis c'est important de le faire. Quand on chante quelqu'un qu'on a aimé, qui fait partie de la culture musicale française et tout, c'est déjà quelque chose d'important. Et quand il fait en plus partie de ta famille et que t'as travaillé avec lui, que tu t'es mis à son service et puis que c'est le sang, quoi. Voilà, c'est ça, on va dire que ça multiplie par 10 000 ce sentiment-là. Donc oui, on parle souvent de deuil, tout. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, ouais. En fait. Un deuil, pour moi, ça n'existe pas. Je veux dire, une personne te manque, le temps apaise, mais une personne te manque toute ta vie, quoi. Donc pour moi, un deuil, c'est un truc que j'arrive pas à saisir, en fait.
Il y a une notion qui est très importante chez vous dans votre carrière, c'est l'héritage, la transmission. C'est un moyen aussi, cet album, de transmettre à vos enfants la voix de votre père, que l'héritage passe aussi presque des grands-parents aux petits-enfants.
La transmission, c'est ça. Moi, je viens d'une famille artistique de plusieurs générations. Évidemment, forcément, mon père, ma mère sont les plus connus, on va dire. Mais on connaît pas les autres membres de ma famille que moi j'ai connus, qui sont incroyablement doués et qui ne désiraient pas nécessairement faire une carrière avec ça. Puis c'était pas l'époque non plus. C'était après la guerre, on avait d'autres soucis. Je pense que c'était pas le but. Les gens étaient moins focus sur leur carrière, juste gagner leur vie et puis essayer de s'en sortir, quoi. Donc c'était pas le but. Donc oui, moi j'ai entendu des histoires de mes arrière-grands-parents et aujourd'hui, bon, mes parents m'ont transmis, mon oncle, ça m'ont transmis beaucoup de choses et que je transmets à mon tour à mes enfants. Et c'est formidable qu'à travers moi ils découvrent aussi. Par exemple, mon fils a 19 ans, il était pas là quand, il était pas né quand 100% est sorti. Il a découvert ça sur le tard et il me l'a redit encore hier. Il se dit c'est génial que tu fasses ça aussi pour nous, quoi. Et je pense qu'une transmission, et nous on a été tous élevés, tous les enfants, dans la transmission, comme quoi c'est quoi. C'est important de laisser les bonnes traces au sein de la famille pour ceux qui vont arriver après. Et j'espère que j'aurai un de mes petits-enfants plus tard, petits ou petits-enfants, qui fera ce qu'on a fait et qui sera sur scène et qui pourra chanter toutes ces chansons aussi. C'est un petit peu le but.
Votre famille a eu aussi parfois quelques difficultés. Laetitia Hallyday, la dernière femme de Johnny Hallyday, se partage avec les enfants de Johnny le droit moral sur son œuvre et son utilisation. Vous lui avez demandé l'autorisation pour cet album de reprise ?
Vous pensez que je suis hors la loi ou quoi ?
Non, je n'imagine pas.
Évidemment.
Je n'imagine pas une seconde.
On est plusieurs ayant droit, et puis c'est tout à fait normal de demander. C'est comme ça que mon père l'a voulu aussi. Donc évidemment, j'aurais pas fait ça.
Ça s'est passé de manière fluide ?
Absolument, oui, bien sûr. Oui. Quand un projet est bon et puis que, au contraire, on représente bien un héritage artistique, il y a pas de souci, il y a jamais de souci.
Non, parce qu'on pensait que ça pouvait être plus compliqué. Ces dernières semaines, on a entendu vos deux demi-sœurs, Jade et Joy, dire que les relations étaient difficiles avec vous et avec l'autre partie de la famille. Ça vous a fait mal au cœur, vous qui parlez depuis de longues minutes de transmission et d'héritage ?
Non. Vous savez, non, parce qu'elles sont jeunes, elles ont le temps de grandir, d'évoluer dans la vie et puis
de comprendre
certaines choses. Donc je n'en veux pas du tout. on comprend pas tout quand on a leur âge.
Est-ce qu'il faudra faire un pas vers elle un jour, parce que vous êtes l'aîné, l'adulte.
Oui, mais il s'est passé des choses hein, dans ce sens-là. Puis je l'ai dit aussi. Tu sais, il faut pas forcer des choses. Ouais. Ça sert à rien de forcer des choses quand on a entendu des trucs toute ta vie. T'es forcément pas très enclin à y aller au début, mais elles le savent. Je l'ai suffisamment dit que ma porte est ouverte et que c'est mes sœurs et que je les aime. Et quand elles seront prêtes, mûres et prêtes, elles seront toujours bien accueillies. Donc il y a pas de souci.
David, j'ai envie de venir vous voir en concert. J'ai envie.
Eh ben, c'est bien, c'est j'espère.
J'ai envie de venir vous voir. Il y aura une tournée dans toute la France.
Ouais, ça va être génial. Ouais.
Il y aura les 12 et 13 novembre au Dôme de Paris.
Ouais.
Ça va être un moment exceptionnel. On peut remettre du 100%. Moi, je demande à Hervé là, parce que franchement, vos deux voix ensemble, ça donne des choses incroyables. Sur scène, vous allez reprendre cette tournée que vous allez chanter pour la première fois à 100%. Vous allez ressentir quoi?
Ah ben, je pense que ça va encore.
Ça va être dur un quintuplé. Parce que là, vous êtes un peu fort, le beau gosse.
Non, mec... je suis pas un peu fort, je suis fort.
Fort, le mec costaud, tout ça.
J'ai mes failles aussi.
Lesquelles?
Mais je suis un hypersensible, moi, donc tu sais ce que c'est. C'est pas une maladie, hein, d'ailleurs. Ouais. On pense que c'est une maladie,
c'est pas hypersensible. Maladie.
C'est juste une façon de ressentir les choses, de ressentir les gens et tout ce qui se passe autour. Mais la musique est un bon traitement pour l'hypersensibilité. Mais tu sais, moi je pense que l'art doit être inconfortable de toute manière, parce que dans le confort on n'a rien à dire finalement. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc quand quelque chose te prend à la gorge, je pense qu'il y a des émotions qui ressortent naturellement, qui ne ressortent pas dans la vie de tous les jours. Et moi c'est ça que je cherche dans l'art, que ce soit dans la peinture, dans la danse, de s'oublier en fait et d'être pris par l'émotion. Et il se passe ce qui se passe. Et le live c'est beau pour ça en fait. Donc oui, je serai pris par l'émotion. Je sais pas ce qui va se passer. Mais c'est ça que j'attends en fait.
C'était un plaisir de vous recevoir dans Focus Dimanche sur RTL, David Hallyday. C'était un vrai plaisir et vous m'avez ramené dans mon enfance et je vous dis merci. Et on se voit en concert au Dôme de Paris.
Allez.
À bientôt sur RTL, David Hallyday.
Merci à vous.
Véronique Béchu est une lanceuse d'alerte depuis près de 20 ans. Elle se bat contre les violences faites aux enfants. Elle publie un livre bouleversant où elle dresse le tableau d'un phénomène glaçant, celui d'Internet où des milliers de pédocriminels sévissent. Comment protéger vos enfants, vous le saurez dans un instant sur RTL. Ne bougez pas.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan. Si comme Ryan Gosling vous voulez découvrir Un petit truc en plus, ça sort le 1er mai au cinéma. Je vous fais des bisous. Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL.
RTL. Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Demain, je vous parlerai du 29 avril 1945, où les électrices françaises ont enfin pu s'exprimer pour la première fois sous les ors de la République.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À demain.
13h, 14h.
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Véronique Béchu est une lanceuse d'alerte. Elle est aussi la commandante de police à l'office mineur. Elle dresse le tableau d'un phénomène glaçant et sous-estimé en France, celui d'Internet où rôdent des milliers de pédocriminels. Véronique Béchu publie Derrière l'écran aux éditions Stock. Elle est mon invitée sur RTL. Bonjour Véronique Béchu.
Bonjour Mohamed.
Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui sur RTL dans Focus Dimanche pour un sujet qui est lourd, mais un sujet qu'il faut évoquer. Un sujet qu'il faut évoquer pour notamment les parents, les grands-parents, les proches. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de Focus Dimanche, les auditrices aussi qui ne savent pas forcément ce que c'est l'office mineur dont vous êtes la commandante?
Alors je suis donc Véronique Béchu, commandante de police. Je travaille depuis 22 ans dans la lutte contre l'exploitation des violences faites aux mineurs, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles. J'ai tout d'abord débuté mon parcours professionnel à la Brigade des mineurs de Paris pendant 13 ans. Et puis j'ai intégré une unité spécialisée dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne en 2015. Cette unité s'appelait le groupe central des mineurs victimes, qui a en septembre dernier, donc en septembre 2023, a été absorbée par l'Office mineur, qui a été créé pour lutter plus efficacement sur les violences faites aux enfants.
Véronique Béchu, dans votre livre, chaque page nous apprend quelque chose. Chaque page nous met en lumière des événements qui sont glaçants. En 2021, c'est il y a pas longtemps en 2021, c'est il y a 3 ans, 85 millions d'images et de vidéos pédopornographiques ont été signalées dans le monde. Ce type de contenu a augmenté de 6000% en 10 ans et ça continue d'augmenter, Véronique Béchu.
Oui, tout à fait. Nous, en France, nous avons constaté une augmentation des signalements pour des faits de contenu pédocriminel diffusés en ligne de plus de 12 000% en 10 ans. En fait, depuis que je suis dans cette thématique de travail, en fait, tous les ans, on constate une augmentation de 30% des phénomènes pédocriminels qui se déroulent en ligne. Donc, effectivement, c'est énorme. Mais pourquoi ? Parce que il y a eu une popularisation d'Internet. Tout le monde maintenant a Internet à la maison et surtout les enfants qui sont dès le plus jeune âge hyper connectés. Et en fait, mon ouvrage est à vocation à sensibiliser tout un chacun à ces phénomènes pédocriminels dont je fais l'état des lieux dans ce livre. J'y ai mis une grosse part de personnel expliquant mon parcours professionnel parce que je pense que tout le monde a besoin de comprendre, d'entendre et d'appréhender ces phénomènes.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première enquête dans votre vie, cette petite fille et cette petite image que vous découvrez avec les autorités néo-zélandaises? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Tout à fait. Alors, ça a été mon premier dossier et ça a été pour moi quelque chose d'extrêmement impactant parce que jusqu'à présent, ça faisait pourtant 13 ans que je travaillais dans la thématique, je n'avais jamais été confrontée visuellement à ce que l'enfant subissait. Et ça a été une révélation pour moi de la part que je devais encore jouer dans cet engagement et dans ce travail des violences faites aux enfants. Et donc, je reçois un matin un mail de mes collègues néo-zélandais qui venaient d'interpeller un pédocriminel sur leur territoire. Et puis, ils me disent, on pense que cette petite fille dont l'image vient d'être captée récemment est française. Et en fait, ils ont ce sentiment-là parce qu'il y a un petit indice dans l'image derrière l'enfant, donc qui est mis en scène sexuellement, il y a un baril de lessive. Et sur ce baril de lessive, on voit un tout petit morceau de l'étiquette. Et dans un petit coin de cette étiquette, de ce tout petit morceau, il y a un drapeau français. Et donc, ils me disent, forcément, c'est une petite fille française. Alors, on n'avait aucun élément qui nous disait que c'était effectivement une petite fille française. Donc là, c'est le rôle de l'enquêteur de tirer ce premier fil et de mener une enquête jusqu'au bout afin d'identifier cette victime pour la mettre en sécurité. Et en quelques semaines, donc c'est pas un travail qu'on mène seul, hein, faut vraiment le dire, c'est un travail d'équipe. Moi, j'étais directrice d'enquête sur ce premier dossier, mais mes effectifs m'ont beaucoup aidée. J'ai réussi à identifier cette petite fille. Elle était dans un petit village en France. Je vais la rencontrer à l'école pour l'entendre, donc je l'auditionne. Au départ, elle me révèle que ce sont ses parents qui l'agressent sexuellement et qui captent les images pour les diffuser en ligne. Et mon instinct d'enquêtrice, et là c'était les expériences Brigade des mineurs, me disent il y a quelque chose qui va pas dans son discours, donc je mène l'enquête et évidemment j'interpelle les parents dans un premier temps. Je vais réussir à déterminer que ce que m'a dit l'enfant n'est pas la vérité, que ce qu'elle raconte, il y a un fond de réalité, mais que ces agresseurs ne sont pas ceux qu'elle désigne.
C'est plutôt un babysitter.
Exactement. En fait, au final, c'est son babysitter. Et donc, on ira l'interpeller. Je l'entendrai, hein, puisque j'entends aussi les auteurs d'agressions sexuelles et de viols sur les enfants. Et puis, on déterminera, grâce à l'analyse de ces supports numériques qui seront saisis, qu'il a fait des dizaines de petites victimes et qu'il sera passé à l'acte physiquement sur certaines d'entre elles.
Votre livre est très touchant. vous n'omettez rien. Vous êtes maman de deux enfants et vous n'omettez pas, par exemple, dans ce livre derrière l'écran publié aux éditions Stock, votre surmenage en 2023. Vous étiez fatiguée. Quand on voit autant d'horreurs par jour, quand on voit autant de douleurs, quand on voit autant d'enfants victimes de violences sexuelles et psychologiques graves, comment on tient, tout simplement?
Alors, on a des petits biais.
Parce que je vous ai vu ému quand vous parliez de cette première enquête, Véronique Béchu.
Oui, bien sûr, parce que ça a été, une entrée fracassante dans la pédocriminalité en ligne.
Vous voyez toute la journée des horreurs, toute la journée des choses.
Oui. En fait, on est en 12 heures par jour à peu près. On voit des choses que personne ne voit et on est tous volontaires dans cette unité. On choisit cette thématique-là, on ne vient pas par hasard. On sait que notre engagement est fort et on tient le coup justement parce qu'on se dit à chaque fois, un enfant sauvegardé, c'est au moins un enfant, même si on sait qu'il y en a beaucoup d'autres qui attendent. Mais voilà, on a la satisfaction quand on va chercher l'enfant et que à l'issue de l'enquête, moi, un de mes plus beaux souvenirs, c'est une petite fille qui, quand je lui ai dit au revoir à la fin de l'enquête, m'a dit « Heureusement que tu es venu me chercher ». Donc ça, c'est le creuset de notre motivation, vraiment.
Il faut lutter contre ça, il y a des services de police spécialisés. Mais aujourd'hui, le danger, il est aussi sur Internet. Comment on lutte contre le risque des pédocriminels?
Alors je l'ai écrit dans mon livre parce que je trouve ça important que chacun comprenne qu'effectivement... mettre son enfant à la maison, derrière quatre murs, avec une porte fermée, etc., avec la sensation qu'il est en sécurité et qu'on lui met un outil numérique connecté à Internet, sans contrôle parental, sans éducation à la sécurité de l'outil, de l'utilisation de l'outil, c'est comme si on déposait son enfant dans un parc dont on sait qu'il est fréquenté par des pédocriminels et venir le chercher deux heures plus tard. C'est fini. Il faut impérativement que les gens comprennent que quand on donne ce type d'outil qui est par ailleurs très utile pour les enfants ou les adolescents, on leur donne cet outil, c'est très bien, mais dans ces cas-là, il faut savoir le paramétrer toute sécurité. Bah, par exemple, vous mettez vos réseaux sociaux en privé, vous ne les mettez surtout pas en public. Il faut dire à l'enfant de ne jamais diffuser de photos de lui. Il ne faut surtout pas accepter de devenir ami avec des gens dont on ne les connaît pas physiquement. Ça, c'est la première prescription qu'on doit dire, notamment aux plus jeunes. Tu ne deviens pas ami sur Internet avec quelqu'un que tu ne connais pas physiquement parce que il y a majoritairement des individus qui ont des appétences pour les enfants, qui vont se faire passer eux-mêmes pour des enfants ou pour des adolescents de manière à mettre en confiance les enfants pour obtenir d'eux des contenus sexualisés qui les mettent en scène. Donc vraiment, c'est ça.
Et vous êtes d'accord avec moi, je crois qu'une photo sur deux qui se retrouve sur le dark web, donc cet endroit qui n'est pas disponible pour tout le monde, où on va gratter, chercher des informations, des photos, etc. Une photo sur deux est diffusée par les proches sur les réseaux sociaux. Donc faire très attention, vous partagez cet avis, dire aux grands-parents, aux parents, arrêtez de montrer des photos de vos enfants, de vos bébés, dans des situations de maillot de bain, etc. Parce que ces photos, elles sont dangereuses et on ne sait pas où elles se retrouvent notamment.
Alors elles se retrouvent en ligne, mais pas seulement sur le darknet, en plus sur le clearnet. Les pédocriminels sont extrêmement friands de ces images que les parents partagent. Alors ça s'appelle le sharenting. C'est le partage par les parents de moments de vie. Alors c'est pas forcément en plus des images qui peuvent être sexualisées. Ouais. En fait, c'est une image qui peut être utilisée par le pédocriminel parce que il aime bien physiquement l'enfant et ça va se retrouver sur des réseaux, des forums, des chats pédocriminels où on va mettre des commentaires salaces, on va sexualiser l'image. Et puis maintenant, il y a la problématique de l'intelligence artificielle.
Oui, on peut retirer les habits maintenant.
C'est exactement. En fait, d'une image lambda et commune, d'une réunion de famille, d'un groupe, ils vont prendre, isoler l'enfant et ils vont le déshabiller. Ils vont même créer des vidéos sexuelles mettant en scène l'enfant. Et ensuite, ça va être partagé de manière virale au sein de la communauté pédocriminelle.
C'est un livre choc, derrière l'écran, publié par la commandante Véronique Béchu, qui est la chef du pôle stratégie de l'office mineur, une lanceuse d'alerte aussi. Merci à vous, Véronique Béchu, c'est publié aux éditions Stock, et vous avez cette phrase magnifique que je partage. Les victimes que tu écoutes, soutiens, tu leur redonnes vie. Et ça, c'est important, et je répète souvent qu'entre deux appartements, il y a 27 centimètres, et qu'on peut être là les uns pour les autres pour faire en sorte que notre société soit plus saine, tout simplement, et plus à l'écoute pour les autres, et plus bienveillante. Et une génération qui est sauvée aujourd'hui, c'est un avenir qui est meilleur pour toute la France. Merci à vous, Véronique Béchu.
Merci, Mohamed.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Bon dimanche à vous. À bientôt sur RTL. Cette ancienne femme de ménage est devenue la star des réseaux sociaux après une grève de 22 mois à l'Ibis Batignolles. Rachel Keke est devenue députée en juin 2022 pour changer les choses. Son destin est incroyable, vous allez le découvrir dans quelques secondes dans Focus Dimanche sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Bonjour, c'est Isabelle Langer.
On refait le sport sur RTL.
Ce soir, émission spéciale Ayrton Senna. 30 ans après sa mort, nous revivrons les dernières heures de la vie du pilote brésilien, à jamais icône de la Formule 1, avec Lionel Froissart, journaliste spécialiste de F1, proche de Senna et de sa famille, qui vient de publier L'icône immolée. Je vous donne rendez-vous ce soir, 19h15.
On refait le sport.
Ah, c'était trop cool ce premier date avec toi, Chloé.
Mais ça t'ennuie pas de payer le resto? Hein, parce que je dois réparer ma voiture. Gros frais, hein.
Ah, Paul n'est pas très crédible. Pendant les Oscars Odez, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits. Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Voir conditions sur le site. Oscaro Days signifie les jours Oscaro.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
C'est une femme qui avait marqué les esprits en entrant à l'Assemblée nationale en juin 2022 sans aucune expérience, il faut le dire. Mais avec une grève mythique de 22 mois à l'hôtel Ibis des Batignolles. Une femme qui s'est battue pour les autres dans une ambiance très festive qui a marqué les esprits. On a vu ces images à la télévision française. Aujourd'hui, cette femme, Rachel Keke, publie son autobiographie. Cette autobiographie est marquante pour plusieurs raisons. Elle raconte son combat pour les autres, son combat pour le travail, son combat pour l'équité et l'égalité. C'est cette rage dans mon cœur publiée aux éditions Michel Lafon. Bonjour Rachel Keke.
Bonjour.
Pourquoi avoir décidé d'écrire votre vie dans ce livre « Cette rage dans mon cœur » et pourquoi vous avez encore de la rage dans votre cœur ?
Mais vous savez, j'ai décidé d'écrire mon histoire parce que de femme de chambre, c'est-à-dire mon enfance qui a été tellement difficile puisque depuis mon jeune âge, à l'âge de 12 ans, j'ai perdu ma mère. Et quand ma mère est décédée, je me suis occupée de mes frères, c'est-à-dire tout mon histoire est tellement, ça a été tellement difficile et de la souffrance et là où je suis arrivée aujourd'hui. Mais il fallait que j'explique mon histoire pour que les gens puissent lire comment est-ce que j'ai traversé ma vie jusqu'à ainsi. Aujourd'hui, si j'ai été députée, les gens pensent que mes parents étaient des riches parce qu'il y avait tellement de questions qui se posaient pour dire non, c'est parce que ses parents sont bien placés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a été députée. Non.
Et c'est quoi votre parcours, Rachel Keke?
Mais mon parcours, par exemple, comme je disais tout à l'heure, le décès de ma mère, j'ai souffert, j'ai arrêté les études à l'âge de, quand j'avais le niveau CM2, je suis pas allé plus loin, je me suis battu dans ma vie, je me suis pas laissé faire. Vous savez, la vie même naturellement n'est pas facile, mais j'ai pas baissé les bras, je me suis dit, il faut tenir, il faut que je lutte, parce que ma mère m'a appris aussi, m'a éduqué comme ça. Comment est-ce qu'il faut tenir jusqu'à à ce qu'on puisse obtenir quelque chose? Donc mon parcours, c'est ça, c'est la lutte. Et jusqu'à quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale.
Quand vous perdez votre mère à l'âge de 12 ans, vous devenez une autre femme, vous l'expliquez dans le livre.
Quand je perds ma mère à l'âge de 12 ans, je vois qu'il y a une partie de moi qui s'effondrait. Et là, je reste avec mes frères. Et c'est moi qui m'occupe de mes frères. Parce que mon père, il s'est pas tout de suite remarié. Je m'occupais de mes frères, je faisais à manger, je lavais les vêtements. Je m'occupais de... J'avais plus le temps pour moi-même de pouvoir aller à l'école. Et là, je décide de dire, bon, je me lance dans la coiffure.
Quand vous parlez de la France, vous ressentez quel attachement? Comment vous avez vos premiers souvenirs d'amour de la France?
Mais déjà, depuis mon jeune âge, j'ai connu mon grand-père pas bien, mais avec l'histoire que mes tantes nous racontaient, c'est-à-dire mon grand-père était venu, ils sont allés le chercher de force pour venir en France pour faire la Deuxième Guerre mondiale. Et quand mon grand-père il est rentré après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il était fier. C'est-à-dire, chaque 14 juillet, il se mettait en tenue de militaire et il disait que aujourd'hui, c'est la fête en France. Donc, lui, c'est sa fête. Il était tellement
c'était
fier.
C'était notre fête.
Voilà, voilà. Il était tellement fier et il disait à ses enfants, la France, c'est notre pays. Voilà. Donc, moi, je suis tellement fier, c'est ce que je dis. Déjà, je remercie mon grand-père d'avoir libéré la France dans la main des nazis parce qu'il en a souffert de ça. Moi, c'est une fierté pour moi.
Vous l'expliquez dans ce livre, cette rage au cœur, publié aux éditions Michel Lafon. Vous avez été connu pour un élément plus particulier, cette grève de l'Ibis Batignolles pendant 22 mois, une grève qui concernait pas directement le propriétaire de cette Ibis Batignolles qui était le groupe Accor, mais qui concernait surtout un sous-traitant, le groupe STN, qui refusait que vous pointiez, qui ne refusait vos augmentations de salaire, les conditions étaient terribles. Les femmes de ménage, vous faisiez partie de ces femmes de ménage de cet hôtel Ibis Batignolles, ramenaient même leurs propres produits d'entretien.
Souvent, on a un manque de produits. Il y a des femmes de chambre qui viennent avec les produits pour travailler. Souvent, on n'a pas de gants, on n'a pas de matériel
avec leur
pour
balai.
Travailler avec le balai. On n'a pas souvent, il n'y a pas d'aspirateur. Et les produits qu'on travaille avec, c'est très, très, très chimique, c'est dangereux. Et souvent, il n'y a pas de gants. Il y a des femmes qui travaillent sans gants. Et imaginez-vous un peu, aspirer ces produits toxiques. Ça donne des cancers, ça donne de l'asthme, ça donne plein de maladies. Donc, la sous-traitance, c'est, bon, comme dit Accor, je suis obligé de sous-traiter, je n'ai pas le, j'ai le droit de sous-traiter, mais derrière, il faut vérifier. Et ça, ça me donne vraiment la rage de voir que on travaille difficilement, on est traité comme de la merde. Et derrière, on ne fait rien. Pourquoi? Parce que ce métier, c'est des gens racisés qui le font. Mais arrivé un moment, on travaille. S'il n'y a pas de femme de chambre, je le dis toujours, il n'y a pas d'hôtel. S'il n'y a pas de femme de chambre, il n'y a pas de client. Là, les Jeux Olympiques vont arriver. Mais imaginez-vous, il n'y a pas de femme de chambre ou d'hommes, les choses qui viennent regarder les Jeux Olympiques. Donc, c'est un métier qu'il faut rendre visible et qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut respecter les gens dans ce métier. C'est très important.
Il y avait une ambiance exceptionnelle dans cette grève qui a duré 22 mois. Et d'ailleurs, on vous a quasiment menacé, parfois, de ne pas faire grève. Vous avez reçu des pressions graves.
Oui, même on nous a menacé même de nous licencier. On nous a menacé de dire que si on ne travaille pas, on ne va pas nous donner nos salaires et on va nous licencier, on ne va plus reprendre le travail. Ouais. Mais nous, ce qu'on voyait, en fait, c'est la manière qu'on nous traitait, en fait. C'est-à-dire le rabaissement, l'humiliation qu'on nous donnait. Parce que sachez que dans ce métier, il y a du viol, il y a des attouchements. Quand les clients ils viennent, ils pensent qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Et moi, j'ai été victime d'un attouchement. Il y a un client qui m'a touché les seins. Moi, je le dis. Donc, dans ce métier, il y a beaucoup de maltraitance. Et que ça,
vous avez été victime d'une agression sexuelle.
Moi, j'ai été victime. Il y a un client qui m'a touché les seins. Et dans ce métier, souvent, quand tu arrives, tu frappes à la porte. Il y a le client qui, quand il t'ouvre la porte, il te montre son sexe. Il y a tout dedans. Et ces femmes là-bas, comme c'est des femmes racisées qui connaissent pas leurs droits, mais le client fait tout son il fait tout ce qu'il a envie de faire envers ces femmes-là. Le système fait qu'aujourd'hui, ces femmes qui sont victimes ont honte de venir expliquer ou bien de venir parler par manque de mauvais jugement à leur encontre. Parce que quand c'est une femme qui est victime de violence, mais là, faut pas qu'elle parle. Parce que tout de suite, on trouve qu'elle ment, elle a inventé, elle a imaginé quelque chose, c'est faux. Mais quand c'est l'homme, tout de suite, on le protège. Et ça, c'est un problème. Et dans les hôtels, ça se passe. Dans d'autres métiers aussi, je sais pas. Dans d'autres métiers aussi, il y a des victimes de violence. Mais dans l'hôtellerie, moi, je vous dis, c'est grave.
Mais heureusement, ça évolue, ça change, les mentalités changent, pas assez vite. On est entièrement d'accord, Rachel Keke, mais ça évolue. On va passer un moment plus souriant. Votre arrivée à l'Assemblée nationale, vous devenez une star des réseaux sociaux, on vous voit sur TikTok, on vous voit sur Instagram, vous gagnez l'élection législative et vous arrivez à l'Assemblée nationale et quasiment l'une de vos premières prises de parole, excusez-moi, vous criez, vous êtes en colère, vous reprochez aux députés de l'opposition, enfin aux députés de la majorité présidentielle et du Rassemblement national et des Républicains de ne pas voter une augmentation des salaires. Là, vous craquez complètement.
Je craque parce que j'arrive, je comprends pas. C'est-à-dire, j'arrive, c'était pendant notre niche parlementaire. je suis assise et je regarde le débat sur l'augmentation de salaire. Et moi qui a commencé avec 400, 500 jusqu'à 1000 euros, et que quand je vois que dans notre niche, la France insoumise demande qu'on augmente quand même le salaire des gens qui touchent moins, mais moi, chez moi, ça me fait plaisir. Enfin, les gens, enfin, quelque chose de concret sera voté pour que les gens puissent mieux vivre. Mais quand tu attends les débats, et que tu vois que la majorité présidentielle dit non, mais il faut donner des primes. Mais les primes, déjà, c'est pas compté dans les retraites. Et les primes, souvent, il y a d'autres qui n'ont pas des primes. Ça, c'est clair, il y a des salariés qui ont des primes et il y a d'autres qui n'ont pas de primes. Et quand je vois les débats, et je me dis, mais c'est pas possible. Ouais. Ils sont déconnectés, ils savent pas qu'il y a une réalité, ils savent pas que les gens touchent quand même 800 euros et qu'ils peuvent pas vivre avec. Et que c'est à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, qu'on vote les lois. C'est là où on décide la situation, la vie des gens. Comme j'ai dit, il y a trois boutons devant où on a pu pour, contre et l'abstention. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas voter? C'est quel débat? Et là, je me suis mis, j'ai pas crié, mais c'était cette rage-là que j'ai dit, mais attends, il faut que je me lève pour leur dire, vous ne comprenez pas ou bien vous êtes déconnectés. Il y a des gens qui touchent, il y a des réalités qui sont là. Qui a déjà touché 800 euros? J'ai pas dit par jour, hein, ouais. Parce qu'il y a des gens qui dépensent ça par jour. Par mois, il y a des gens qui vivent avec ça et qui peuvent pas vivre avec ça. Et nous, on peut changer leur vie. Pour qu'on t'aide, pour qu'on n'appuie pas le pour que ça se passe.
Merci beaucoup Rachel Keke.
Merci.
Cette rage de vaincre, cette rage au cœur, c'est publié chez Michel Lafon. C'est votre livre, votre histoire, Rachel Keke, qui revient sur votre combat, votre autobiographie tout simplement, que vous racontez avec beaucoup de sincérité. Merci à vous, merci d'avoir accepté mon invitation.
Mais merci, je suis très heureux d'être là aussi.